RCF.
La vie de tante fête à la coursive est une proposition de bienvenue à Olivia Granville. Olivia Granville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du CCN, Centre chorégraphique national à La Rochelle, Mille Plateaux. Et nous sommes avec Franck Becker. Bonjour Franck.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la coursive. Et Franck, vous avez choisi de programmer trois spectacles, trois créations d'Olivia Granville dans cet avis de temps de fête. Alors tout d'abord, Franck, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les coulisses de cette programmation? Comment ça s'est passé? Olivia est arrivée à La Rochelle, vous êtes rencontrés. Expliquez-nous un peu comment s'est fait cette rencontre.
Eh bien écoutez, dans le cadre de ce qui a été le recrutement de la nouvelle direction du CCN de La Rochelle, Olivia est venue effectivement me rencontrer la coursive et puis me faire part de ce que pouvait être son projet artistique pour ce centre chorégraphique et puis se renseigner aussi de ce qu'était la politique de la coursive et de comment possiblement des collaborations allaient pouvoir se construire. Donc ça a été une première rencontre. Parallèlement à ça, la coursive programme chaque année depuis déjà maintenant 5 ans ce que nous appelons des avis de temps fait, qui sont des temps forts, des focus que nous construisons sur une thématique, une discipline ou le travail d'une artiste, là en l'occurrence. Et quand Olivia a été nommée à la direction du CCN, il m'a semblé vraiment judicieux de pouvoir consacrer cette année un temps fort et un de nos avis de temps fait à son travail pour le faire découvrir un peu à la manière... Alors, quand on parle de feu d'artifice, on parle de bouquet final. Nous, on va inventer le bouquet inaugural comme nouveau concept, de manière à ce que, effectivement, par le biais de 3 voire 4 propositions, il soit possible pour le public de la coursive et de ses environs de découvrir vraiment un maximum des facettes de son travail.
Et Franck, vous connaissiez le travail d'Olivia Granville?
J'avais vu un spectacle il y a déjà quelque temps, mais je n'avais pas rencontré ces dernières productions, ce que j'ai fait en accéléré toute la saison dernière.
Donc avant de les programmer, vous êtes quand même allé voir son travail?
Oui, mais j'ai pas forcément programmé ce que j'avais vu ce que j'avais programmé. Enfin, ça s'est fait d'une manière un petit peu plus complexe que ça. Et puis, il y avait aussi, je pense...
Un peu plus complexe. Est-ce que ça veut dire que c'est une décision commune, un échange entre vous deux, de savoir...
Oui, on a effectivement discuté de l'opportunité de programmer les bonnes pièces sur les bonnes scènes. À cet instant-là de l'inauguration d'un nouveau projet par Olivia au CCN, ça semblait important voilà, qu'on en discute pour qu'elle-même nous fasse part de ce qu'elle avait envie de partager prioritairement avec le public rochelais. Et puis il y a eu aussi, vous savez, des questions tout à fait basiques, à la fois techniques, un peu financières, mais surtout techniques, notamment du côté du théâtre de la Coupe d'Or, où voilà, les pièces d'Olivia pouvaient pas forcément toutes être présentées en termes d'espace aussi.
Donc Olivia, trois spectacles hein, qu'on va trouver à la coursive, Des Bandades les 21 février et 22 février, Foule le 11 mars et À l'Ouest le 22 mars. Alors À l'Ouest c'est à Rochefort, hein, à la Coupe d'Or.
Oui.
Olivia, alors tout d'abord je voudrais qu'on vienne sur le premier, Des Bandades. Donc c'est une création.
Oui, Des Bandades, c'est ma dernière création. Pour le
c'est
coup.
La dernière.
Oui, c'est la dernière création puisque ça a été créé en décembre dernier au lieu unique en fait, même si c'est une création qui s'est étalée vraiment sur le temps parce que c'est une création qui a enjambé le Covid, c'est une création pour 7 garçons et qui a commencé, où l'idée de ce projet a commencé à naître suite à une année, la saison 2018, où j'avais énormément travaillé dans le cadre de dans des cadres pédagogiques en fait avec des très jeunes danseurs, des danseurs entre 18 et 22 ans. Et donc cette année-là où on était aussi en pleine explosion du mouvement MeToo. Je regardais ces jeunes gens et à un moment j'ai moi aussi deux fils en fait, un de 26 ans et un de 23 ans. Donc je regardais aussi mes jeunes fils Et je me demandais un petit peu comment tous ces jeunes hommes vivaient leur identité masculine dans un moment où il y avait quand même une remise en cause, une remise à plat bienvenue de pas mal de questions, mais qui pouvait être peut-être un peu perturbante pour eux. Et c'était aussi un constat un peu que je faisais en voyant ces jeunes gens. Et donc j'ai eu envie de réunir ces 7 garçons que j'ai donc tous rencontrés dans ce contexte pédagogique, donc ils étaient tous très jeunes interprètes, pour leur demander comment ils allaient, en gros. Et comment ils vivaient leur masculinité, qu'est-ce qu'ils pensaient du féminisme, qu'est-ce qu'ils pensaient du patriarcat, tout ça, tout ça. Alors tout ça était quand même assez sérieux, assez intime, assez complexe, en pleine période de Covid. On s'est retrouvés par exemple en résidence à Charleroi, vraiment en plein confinement pendant plus de 15 jours. Donc là, on était confinés de confinés, parce que déjà en résidence, c'est déjà une forme de confinement.
Mais là, il y avait en plus un réel confinement.
Puis à Charleroi quand même aussi. et en fait, est sortie de ça une vraie rencontre, je pense, entre nous, où à un moment donné, ils ont commencé vraiment à me faire confiance. Parce que c'était pas évident de parler comme ça de leur intimité, de leur sexualité. Et on a même fait intervenir un médiateur à un moment donné qui nous a permis vraiment d'échanger une parole.
Et en fait, un médiateur parce qu'à un moment donné, c'était compliqué d'aller plus loin dans l'échange.
Parce que c'est tous des danseurs de. Parce que c'était compliqué d'aller plus loin, parce que moi j'avais pas forcément les outils, parce que entre un danseur burkinabé, un danseur argentin, un jeune danseur contemporain français très habitué à ce genre de débat, ben il y avait des écarts et que moi j'étais la seule femme dans tout ça et que je trouvais ça bien qu'on pose toutes nos paroles les unes à côté des autres, en fait, y compris la mienne. Et en fait, ça a été très, très important. Et finalement, cette pièce qui n'était pas si évidente, et en plus dans ce contexte-là, parce qu'en fait, il y a plusieurs résidences qui ont été reportées, la date de création a été reportée, ça s'est étalé quasiment sur 2 ans, en fait, au lieu d'une année normalement. D'abord, ça a été très bien parce que ça nous a permis de réfléchir un petit peu et de prendre vraiment le temps de rentrer dans le sujet. Et puis, par ailleurs, il y a quelque chose d'extrêmement joyeux, surtout, qui est sorti de tout ça. Parce que je crois qu'on avait vraiment besoin d'énergie, de musique, de joie de vivre, de rire. Et en fait, on s'est beaucoup, beaucoup marré, quoi, en fait, en faisant cette pièce et en s'amusant avec un certain nombre de stéréotypes masculins et féminins, d'ailleurs. Et en allant finalement vers une pièce très dynamique, ce qui n'était pas forcément l'idée de départ, avec une musique assez mainstream, parce qu'on a travaillé avec Jonathan Selman sur un choix de morceaux, vraiment de musique populaire, de chansons presque, de variétés presque, mais en suivant un petit peu l'évolution justement des masculinités dans la musique populaire, de Elvis Presley à David Bowie ou de Serge Gainsbourg à Missy Elliott. Comment est-ce que la question en fait du genre et des stéréotypes de genre avait été aussi détournée par les musiques populaires, transformées et où finalement il y avait un parcours qui était assez intéressant au travers de ça. Donc on s'est beaucoup amusé avec ça parce que moi j'avais jamais travaillé sur des musiques aussi mainstream en fait que ça. Je faisais des trucs plus sérieux, quoi.
plus académiques, peut-être.
Pas forcément académique, mais des musiques. D'abord, mon rapport à la musique, il est complexe. Je travaille souvent sur du texte. Enfin bon, bref. Là, je me suis un peu lâchée, on va dire, dans un truc assez joyeux, assez drôle. Et puis surtout, je suis tombée sur une bande d'interprètes absolument mais formidable. Depuis, ça y est, ils sont devenus grands, quoi. Et d'ailleurs, c'est très difficile de les rassembler. On a quelques problèmes, on a été obligé de refuser des dates, ce qui est atroce pour nous parce qu'on n'arrivait pas à rassembler toute l'équipe parce qu'ils sont un peu
aux quatre coins du monde, hein, c'est ça, ouais, parce qu'en fait ils sont tous d'origine, de nationalité différente.
Oui, ils sont, enfin pas tous, mais en tout cas il y a un belgo-tunisien, un italien, un burkinabé, un argentin. Et en fait, je les ai rencontrés à la faveur de ces stages pour jeunes artistes professionnels, où effectivement, ils étaient parfois en France de passage, où ils étaient entre deux pays. Mmh. Donc, du coup, c'est pas toujours évident de les rassembler. Mais du coup, c'est une équipe de choc, quoi.
Olivia, vous disiez que les prémices de ce spectacle, c'était un échange avec eux, assez intime. Oui. Est-ce que vous avez été surprise de leur réaction et de ce qu'ils vous ont, ce qu'ils ont exprimé ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un peu interpellé, dérangé, surprise ?
Surprise, je peux pas dire vraiment surprise parce que j'avais quand même un petit peu réfléchi déjà
au sujet
sujet et qu'ils étaient jeunes, ils étaient quand même plus jeunes que moi. Mais j'ai appris quand même aussi beaucoup de leur jeunesse en fait. Parce que c'est aussi ça d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai fait la pièce, parce que en fait dans ce mouvement MeToo et ce féminisme là, moi je suis pas de cette génération là et parfois j'étais un peu à la fois très contente que ce débat ressurgissent et un peu choquée de la violence en fait du débat. Et j'ai compris un certain nombre de choses de part et d'autre et venant des filles et venant des garçons, même s'il n'y avait pas de filles dans cette équipe-là. Tout d'un coup, il y avait aussi, et c'était l'idée, un discours du féminisme en creux en fait et du féminin en creux qui était très présent. Ce que j'ai appris d'eux, c'est que j'étais quand même assez admirative de leur tolérance en fait les uns vis-à-vis des autres, parce qu'effectivement les cultures n'étaient pas les mêmes, c'était pas évident, de leur tolérance même vis-à-vis de moi peut-être aussi, de comment est-ce que j'osais finalement rentrer dans leur histoire pour poser des questions. J'étais touchée surtout souvent par leurs réponses, et je crois que au-delà du fait que effectivement c'est un spectacle très dynamique, très dansé, très joyeux, c'est aussi un spectacle assez émouvant quand même, parce que chaque parole est une parole vraiment intime et très diverse, et je trouve que ça donne une belle image de cette jeunesse quoi.
Il y avait une grande diversité dans leur réaction.
Ah oui, alors là, j'avais pas fait exprès, mais j'avais l'impression d'avoir réuni un espèce de panel quand même assez complexe, vous voyez.
Dans leur perception des choses aussi, il y avait beaucoup de différences, vous trouviez ?
Oui, il y avait des différences, enfin, il y avait des choses qui avaient du mal à se dire, par exemple, de la part des jeunes hommes hétérosexuels cisgenres, comme on dit aujourd'hui, qui osaient plus trop parler en fait, parfois sur certaines choses. Il y a un moment donné un des jeunes hommes qui dit oh, moi j'en avais marre qu'on parle des femmes là cette année, au bout d'un moment, et tout le monde était ah mais non, mais en fait c'est pas possible, tu peux pas dire ça, et c'est moi qui dis mais si, justement, mais il faut le dire absolument. Je pense que le fait que ça soit une femme qui provoque le débat. J'avais envie d'ouvrir en fait le débat, parce que c'est vrai que il y a une chose quand même qui me pose un petit peu problème en ce moment, c'est l'espèce de manière de compartimenter les pensées via la défense des minorités, ce qui est absolument capital, hein, de pas isoler chaque identité les unes des autres, quoi, de pas dire moi je suis ça mais donc je suis pas ça,
et surtout pas de pas les opposer
et je pense qu'on a fait un vrai travail là-dessus avec eux.
Donc, des bandades, hein. On rappelle les dates, mardi 21 février à 20h30 et mercredi 22 février à 19h30. Franck, vous l'aviez vu avant de programmer, des bandades ?
Oui, je l'ai vu et je l'ai apprécié parce que à Nantes, au lieu unique où Olivier a été artiste associé avant d'arriver ici à La Rochelle. C'est vrai que j'y étais sensible parce que je suis par ailleurs aussi très intéressé par ce qu'on appelle le théâtre documentaire. On en a fait d'ailleurs ces jours-ci un autre à Vie de Temps Fait. Et la démarche procède en partie de ça. Mais je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que au-delà de cette dimension assez théâtrale, c'est effectivement, comme Olivier vient de le dire, un super moment de danse. Il y a une tonicité, effectivement une joie, ces musiques apportent aussi beaucoup d'élan et puis un bel équilibre entre des solis qui donnent leur place à chacun des interprètes et en même temps des temps de danse chorale qui emportent aussi vraiment très efficacement l'ensemble.
En tout cas, je pense que c'est vraiment une pièce pour tous, quoi. C'est ça qui est important, c'est que la jeunesse, ils sont à fond là-dedans, et les gens plus de ma génération le voient autrement, mais il y a une espèce de consensus quand même autour de cette pièce qui fait que les gens sont rassemblés, quoi. Et je pense que c'est la période où la pièce a été faite n'y est pas pour rien, en fait.
Et c'était un peu votre objectif, Olivia ?
Ouais, carrément. Ah, ouais. On avait envie, ouais.
Parce que le point de départ est très générationnel, mais les questions que tu leur as posées, elles sont universelles.
Enfin, absolument.
Quel que soit son âge, on se pose des questions sur sa façon d'être homme et femme, et on s'y retrouve aussi dans ce spectacle.
Autre spectacle à l'Ouest, le 22 mars, alors à Rochefort. Pourquoi avoir choisi de faire ce spectacle à Rochefort, Franck?
L'idée, c'était aussi de donner une dimension au moins départementale à cette programmation, parce que je pense qu'il faut le souligner, Olivia n'est pas directrice que d'un centre chorégraphique Rochelet, mais d'un centre chorégraphique qui a pour vocation, comme tous les CCN, de rayonner à l'échelle régionale. Mais comme je ne dirige pas tous les théâtres de la région, mais seulement la Corse et la Coudance, qui est déjà beaucoup, il m'a semblé judicieux de trouver aussi le moyen d'ouvrir les portes et la scène du théâtre de la Coupe d'Or à une autre proposition qui effectivement est peut-être un petit peu plus intimiste dans sa scénographie déjà et qui je pense trouvera tout à fait sa place là-bas.
Olivia, donc à l'Ouest, on part vers l'Ouest comme son nom l'indique, avec des musiques et des danses amérindiennes?
Alors pas du tout.
Ah non.
Même si le travail est parti de là, puisque ça vient effectivement d'un voyage au Canada, et donc il y a une pièce, mais il y a également un film aussi qui raconte un petit peu ce voyage et ma position de touriste fondamentale partant à la rencontre des cultures autochtones. Et là, comme je choisis toujours bien mon moment, j'ai fait cette pièce en plein moment où la question de l'appropriation culturelle surgissait et mettait beaucoup de choses en question. Et moi, en tant que blanche européenne allant rencontrer la culture autochtone, ça n'a pas été facile. Et donc, il n'était pas question d'imiter des danses autochtones ni de me servir de la musique autochtone pour faire une pièce, mais plutôt de rendre hommage, en fait, à cette culture en allant voir, en prenant le temps, parce que j'ai passé donc un mois et demi au Canada et j'ai été accueillie dans une famille dans une réserve au nord d'Ottawa pendant une semaine. Puis après, je suis descendue au Nouveau-Mexique, assistée au plus grand pogo d'Amérique du Nord qui rassemble toutes les communautés. En fait, c'était vraiment une fascination d'enfant, cette culture-là. Et après, chorégraphiquement parlant, j'avais envie d'interroger la question de la pulsation et comment, dans toutes les danses traditionnelles et les danses des minorités, justement, la question du battement de cœur, de taper du pied, de se donner de l'énergie en frappant la terre, en fait, se rejoint à la fois. On retrouve ça, dans les danses bretonnes, dans les danses irlandaises, dans les danses autochtones, dans toutes les danses traditionnelles. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est de l'ordre d'une espèce de pulsation fondamentale, qui est un battement de cœur. Et donc, j'avais envie de travailler là-dessus et de faire des ponts aussi entre cette histoire-là, qui est donc quand même une histoire tragique, une histoire de génocide, qui est aussi notre histoire, parce que c'est quand même nous autres Européens qui l'avons perpétré. Et le fait que dans toutes ces danses et musiques traditionnelles, il y a quelque chose de vital comme ça, qui me touche beaucoup et sur lequel j'avais envie de travailler, auquel j'avais envie de rendre hommage. Et ce n'est que des femmes sur le plateau, cette fois.
Elles sont nombreuses sur le plateau à l'Ouest.
On est cinq femmes, parce que je fais partie des femmes qui sont sur le plateau. Donc cinq femmes de générations différentes. Donc c'est un format plus petit. C'est aussi pour ça que c'était plus judicieux de le faire à Rochefort. Et c'est aussi une pièce très dansée. C'est vraiment une proposition chorégraphique. Même si à côté, il y a donc ce film documentaire quand même qui est montré en parallèle. C'est une pièce très dansée. Et c'est vrai que tout à l'heure, Franck disait qu'on avait évoqué ensemble quelle était la programmation la plus judicieuse pour mon arrivée, faire découvrir mon travail dans la région, qui n'est pas très connue pour l'instant. Et c'était important pour moi de commencer par des pièces vraiment dansées, chorégraphiques, avant d'amener des choses un petit peu plus complexes que je fais aussi.
Et le film, il est projeté après le spectacle de danse ou en même temps, vous disiez à un moment donné?
On va voir, parce qu'en fait, en général, on le projette après, mais ça dépend des contextes et de comment est-ce que la circulation entre les deux choses se passe. Il faut qu'on en discute d'ailleurs.
Bon, c'est un des
sujets. Je pense que c'est assez représentatif aussi de ce travail très transdisciplinaire qui caractérise l'œuvre d'Olivia. On y retrouve bien entendu la danse, la musique effectivement est très présente puisqu'il y a un percussionniste sur scène qui accompagne les danseuses. Il y a un travail vidéo au-delà même du documentaire, les lumières, la scénographie, enfin voilà. Et puis cette démarche de questionnement du réel qui va vers de la poésie et de l'universel.
À l'Ouest, donc le 22 mars à Rochefort à la Coupe d'Or à 20h30. Votre spectacle, Olivia, Foule. Alors Foule, c'est quand même particulier, vous faites monter sur scène des amateurs et pas forcément danseurs.
Oui, absolument. Alors, Foule, c'est une pièce qui date un peu. Il y a déjà 7 foules. C'est la 8e foule. À chaque fois, donc, avec 100 personnes amateurs qui traversent une expérience de 3 week-ends de travail pour le 4e week-end monter sur le plateau et faire vraiment une vraie création. Alors, pourquoi Foule? Parce que, quand même, en danse contemporaine, c'est rare qu'on ait des équipes de plus de... Enfin, déjà, 10 personnes, c'est presque le bout du monde. Et c'est vrai que j'en avais un petit peu assez, j'avais envie de travailler pour un grand groupe, un grand corps, quoi, vraiment. Et de manière un petit peu, c'était un peu la mode des flash mobs à l'époque. Et moi, j'aime pas beaucoup les flash mobs parce que j'aime pas quand les gens font les mêmes gestes ensemble. Ça m'a toujours. Enfin, quand il y a tout d'un coup 100 personnes qui font exactement le même geste ensemble.
Vous aimez pas la synchronisation?
Je peux trouver ça. En fait, je commence à m'y faire au bout de
avec l'âge.
Avec l'âge, je veux bien accepter de temps en temps. Je trouve ça, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'évoque, enfin, qui me fait peur, qui m'effraie en fait, dans les foules à l'unisson.
Pourtant, c'est un peu votre parcours à l'Opéra de Paris.
C'est justement pour
c'est
ça.
C'est un peu ce que vous avez, on vous a appris, non? C'est un rejet, un peu.
Ouais, c'est un peu un rejet. Et puis c'est voilà, je pense que le vivant, c'est plus complexe que ça, en fait. Ça n'existe pas des gens qui font exactement le même geste en même temps. Ils vont le faire de toute façon un peu différemment ou pas tout à fait dans le même rythme. Et c'est ça la vie, en fait. Quand tout d'un coup, les gens sont au cordeau exactement ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien, en fait, hein, dans l'histoire. Moi, c'est mon avis, en tout cas. Même une foule qui fait la fête, par exemple, et qui va se mettre à danser ou à sauter, ils vont pas faire exactement le même geste. Il y a toujours un murmure, comme les vols d'oiseaux. Il y a toujours une forme de murmure à l'intérieur, et c'est ça qui est vivant. Sinon, c'est la Corée du Nord, quoi.
Donc là, l'idée est de mettre 100 personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais travaillé ensemble, jamais dansé ensemble, vous les mettez ensemble sur scène.
Ouais.
3 week-ends pour s'entraîner.
Ouais, avec une partition qui leur est donnée à l'oreillette. Donc en fait, ils sont accompagnés, ils sont suivis. Et il y a une grande partie de la partition qui est faite comme une sorte de jacadie chorégraphique, c'est-à-dire qu'ils ont des actions qui sont...
Alors, quelle action, par exemple, vous
leur
dites...
Par exemple, ça peut être lancer un ballon en l'air et le rattraper. Mais ça peut être aussi...
Et chacun fait le geste comme il veut.
Et chacun fait le geste comme il veut, ouais. Ça peut être lancer un javelot. Ça peut être s'asseoir au sol et pleurer. Ça peut être éclater de rire.
Et la manière de faire le geste, ça n'a pas été répété pendant les week-ends de préparation du spectacle.
Alors, chacun le fait comme il veut.
Ouais.
Après, j'oriente quand je trouve que le geste est trop petit, ce qui est souvent le cas, parce qu'il faut toujours que les gens dansent grand, je vais peut-être orienter un petit peu, parce qu'en fait, les gestes, ils ont une valeur. Il s'agit pas de les, c'est pas du mime, en fait. C'est qu'il faut vraiment faire le geste, parce qu'en fait, ces gestes-là, ils provoquent des efforts, des énergies, du flux, en fait, ce qui est la base de la danse contemporaine, hein. La danse contemporaine, c'est pas des formes, des mouvements, c'est déjà des énergies, des dynamiques différentes, des rythmes, de l'espace entre les gens. Et c'est ça qui est l'écriture, en fait, de la danse. Donc, du coup, au travers de ces actions qui ont été choisies justement parce qu'elles avaient une valeur de niveau, par exemple, c'est au sol, c'est au milieu, ça saute, ou bien d'amplitude de gestes, ou bien d'état, d'humeur aussi, comme voilà, éclater de rire ou se tordre de rire. Tout d'un coup, toutes ces actions-là qui sont données aux gens très rapidement, ils n'ont pas le temps de se demander s'ils sont bons ou mauvais, en fait. Ils sont obligés de le faire. Et du coup, ils ne sont pas tout à fait dans le mime, ils sont dans le faire. Et voilà, et j'écris avec ça, mais aussi avec des consignes d'espace, de rassemblement, entre de dispersion, avec des images. Par exemple, il y a une image où ils se retrouvent sur un quai de gare, par exemple, comment est-ce que les gens marchent sur un quai de gare. Donc je m'étais un peu interrogée sur tout ça, sur la question des foules. Et en ce moment, on en parle beaucoup. Il y a une grande expo à Paris sur les foules, les circulations de foules, qui finissent par créer une forme d'entité, quoi, effectivement un corps. Et comment ce corps reste vivant et respectueux aussi les uns des autres. Quoi.
Franck Becker, vous avez vu une représentation de foule ?
Non, je n'ai pas vu les 7 précédentes, mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup de voir comment Olivia va s'emparer de cette thématique. Comme elle l'évoquait, d'un point de vue strictement économique, nos théâtres arrivent de moins en moins à pouvoir se programmer des grandes distributions. Effectivement, il ne reste plus guère que les grands ballets type Opéra de Paris. Mais avec ce que ça suppose aussi d'une esthétique beaucoup plus rectiligne, un peu raide. Et là, j'entends que l'idée n'est pas là du tout, mais au contraire d'aller vers un regard beaucoup plus contemporain de cette notion de foule, avec l'idée de ne pas se limiter non plus à la notion de désordre qui peut aller avec la notion de foule, mais d'y mettre un ordre esthétique. En tout cas qui crée de l'esthétique à partir d'un désordre. Enfin, c'est en tout cas comme ça que j'attends de voir.
Vous allez le découvrir.
Et puis au-delà de ça, c'est vrai que je pense que la danse contemporaine reste un langage qui mérite encore d'être partagé, sur lequel il y a un travail de sensibilisation à faire. Pour aller voir du théâtre, on peut s'appuyer sur éventuellement des cours de français qu'on a au collège et au lycée, même si pour moi il y a déjà une différence entre ce qu'on apprend en classe du théâtre et la grammaire du théâtre sur un plateau. La danse, elle est quand même très peu pratiquée, évoquée dans un cursus scolaire. Donc on a, nous, nécessité, nous, structure, en connivence avec les artistes, à voir comment faire avancer un petit peu ce débat-là. Et je pense que le fait que de pratiquer de l'intérieur avec une exigence professionnelle, comme ça va être le cas sur ce projet, une écriture d'entrée dans un univers, à mon avis, rien de mieux que ça pour se mettre en appétence. Alors c'est vrai que André Malraux a conceptualisé ce qu'il appelle le choc électif, qui était censé démontrer que tout un chacun a une sensibilité naturelle qui fait que nous sommes tous ouverts à la beauté, quelle qu'elle soit. Je pense quand même que si on peut aider par un petit travail d'appropriation des codes, d'ouverture à une certaine curiosité nécessaire pour effectivement entrer dans ces univers contemporains, c'est pas mal aussi, quoi.
Donc vous allez découvrir, comme le public, le 11 mars, Foule à la Coursive.
Voilà.
Donc on rappelle à 20h30. Franck Becker, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de La Coursive et de la Coupe d'Or à Rochefort. Merci Olivia Granville.
Merci beaucoup.
D'être venue. Je rappelle que vous êtes la directrice du CCN La Rochelle Mille Plateaux. À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.